cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminons dans la transition sur les ondes de Radio Fil de l'eau, l'émission en totale collaboration avec l'île Journal en transition, avec Ligette et nos deux animateurs, deux animatrices, pardon, stars sont là, mais moi aussi je bafouille des fois, c'est... le professionnalisme ne fait pas tout, elles sont là aujourd'hui, Pauline et Tinsia, bonjour à toutes les deux.
Salut. Bonjour
Alex.
On est parti pour cette émission du mois d'avril avec un sujet très certainement plus qu'important par les temps qui courent. Aujourd'hui, ça va être soutenir la paix. Voilà le sujet du jour. Je vous laisse place. Par quoi on commence ? Par quoi on commence pour soutenir la paix ?
Alors, justement, on a voulu parler de soutenir la paix parce qu'il semblerait que ce soit un sujet d'actualité.
C'est pas faux.
Et en fait, ma première réflexion, ça a été d'aller voir certains spécialistes. Et les spécialistes disent qu'on ne naît pas violent. On le devient en développant un comportement de défense face au manque d'amour, de respect, de considération et face à la peur et à l'impuissance que l'on peut ressentir quand on est dans un environnement sans amour et sans respect. Okay.
Donc ouais, il y a déjà quand même, quand on dit oui, l'être humain, ce genre de choses, il l'a en lui, la violence, etc.
C'est pas vrai.
Moi, j'étais déjà persuadé que non.
Et c'est un conditionnement.
Si tu regardes un bébé.
Oui, voilà. Oui. Est-ce qu'un bébé paraît violent ? J'ai pas spécialement l'impression, effectivement.
Et du coup, là, la question qui est venue après, c'est mais quel fonctionnement sociétal, par son essence, entraîne et induit le manque d'amour, de respect et de considération ? Ben là, la réponse, elle a été assez rapide. C'est le patriarcat. Le patriarcat. Le fameux patriarcat. Qui entraîne donc des rapports de domination et d'exploitation de la part des hommes sur tous les autres êtres. Alors, il y a tous les autres êtres qui vivent sans amour, sans respect, sans considération. Et pour parler du patriarcat, j'avais envie de citer un autochtone, un indigène qui s'appelle Yuka Porta Tyson, que Starhawk cite dans son chapitre qu'elle écrit en ligne « The Movement We Need
okay. ».
Il dit « Toute infraction à la loi provient de cette première pensée malveillante, ce péché originel qui consiste à se placer au-dessus de la terre et au-dessus des autres. Surévaluer sa race, son genre, sa culture, sa nationalité et dévaloriser les autres est une forme collective de ce péché.
Okay.
Donc je trouve que là, on a une explication très claire des rapports de domination qu'on a dans ce type de société qu'est le patriarcat. Ensuite, donc, on voit que dès son essence, le patriarcat crée de la violence. Mais pire que ça, il la cautionne. Il la cautionne par deux aspects. D'abord, parce qu'il l'inscrit dans la loi. Par exemple, pendant des années, des siècles même, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Donc, dès qu'on limite les droits d'un être, les libertés d'un être, il y a de la violence. Et puis, pour un autre exemple de violence et de destruction inscrite dans la loi, il est passé une loi qui s'appelle la loi du plomb, qui clairement autorise des produits que l'on sait toxiques, et donc l'écocide que ça va entraîner est inscrit dans la loi.
Ouais, ça c'est tout frais en plus, hein, je veux dire. C'est pas comme si on remontait sur des vieilles lois qui n'avaient pas été abrogées ou ce genre de choses. Ça a été voté, on en a beaucoup parlé il y a une petite année, je crois.
Hein, oui, même pas.
Quelque chose, ouais, c'est ça, hein, quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, on est vraiment, malheureusement, même dans une évolution, on n'est pas basé sur des vieilles lois qui datent de Mathusalem et qui n'ont pas été abrogées.
Non, on est sur quelque
ça
chose
vient
de réel.
D'être voté, quoi. Mmh. Ouais.
Donc, le patriarcat cautionne la loi, la violence, parce qu'il l'inscrit dans la loi, et puis aussi parce qu'il ne la condamne pas. C'est le deuxième aspect. Parce que plus de 80% des plaintes pour viol sont classées sans suite.
Ouais. Ouais.
80, c'est quand même dingue. La violence sur enfants et la pédocriminalité n'est pas condamnée. On le voit bien avec les affaires actuelles. Et puis la violence policière, c'est quand même dingue. Ils ont la possibilité de pouvoir tuer quelqu'un et ils ne sont pas du tout inquiétés dans leur carrière. Il y a quelque chose de... Voilà, donc c'est vraiment légitimé, quoi.
Ils sont mutés à Bayonne.
Pardon ?
Ils sont mutés à Bayonne, pour certains. Après avoir... commis un meurtre, ont simplement été mutés, changé de région, et, et ça va pas plus loin que ça. Ouais.
Donc ça prouve vraiment que voilà, le fonctionnement patriarcal qui se décline au niveau de l'État, donc il inscrit vraiment cette violence profondément. Et au niveau international, eh ben, on va retrouver aussi ce même jeu. Et ce même jeu, il va se mettre, pour peu qu'on puisse parler de jeu, le patriarcat va aussi décliner sa violence au niveau international à travers deux termes, impérialisme et colonialisme. L'impérialisme, c'est la domination d'un État sur les autres, avec appropriation et contrôle des ressources. Donc, ça entraîne une domination économique, technologique et culturelle. Et c'est très lié avec le colonialisme, qui consiste à envahir un pays, s'installer sur le lieu de façon, bien sûr, illégale, évidemment, totalement illégale, piller les ressources, établir un rapport de domination et de dépendance vis-à-vis du pays colonisateur. Donc ça, on est par exemple sur un vieux truc, enfin pour moi c'est vieux, mais les colonies, les anciennes colonies françaises, aujourd'hui, elles n'ont toujours pas la possibilité de produire et de gérer leur propre argent.
Leur monnaie, ouais.
Leur monnaie est toujours contrôlée et fabriquée en France. Ouais. C'est une aberration, c'est une aberration.
Dans plein de pays africains, le franc CFA est encore fabriqué en France.
Ouais. Donc, on voit bien que la violence, elle est partout et elle s'inscrit aussi dans notre comportement au quotidien et dans les enseignements à l'école. Par exemple, à l'école, les cours d'histoire, ça va juste valoriser les guerres et que les hommes. Mmh. Et puis que les victoires. Donc, la science, les femmes qui ont pris leur place, comment on a pris soin de la nature, comment les technologies se sont développées, ça, on s'en fout. Les cours d'histoire, c'est juste, j'ai tué un tel et je suis puissant parce que j'ai tué.
Oui. Voilà. Et encore, et on s'arrête que sur certains aspects aussi, hein, parce que quand on parle de ce grand Napoléon, par exemple, on va mettre en avant plein de choses, mais on oublie d'autres choses, on oublie le rétablissement de l'esclavage, on oublie plein de choses aussi comme ça derrière, dont on ne parle pas. Ouais.
Exactement. Et puis, les droits des femmes qui en ont pris un coup avec Napoléon.
Voyons.
Et puis, après, à l'école aussi, elle s'enduit par une règle de grammaire toute bête qui est « le masculin l'emporte ». Donc ça rentre vraiment dans nos cerveaux comme une règle et du coup, ça se met en place dans tous les aspects de notre vie, en fait. Il faut vraiment faire attention si on veut sortir de ça. À l'international, on va retrouver exactement cette violence et au niveau national aussi. Le problème de cette violence, c'est qu'elle est cautionnée donc à tous les étages, qu'elle provoque des féminicides, des infanticides, des génocides et des écocides. Et ces écocides, elles détruisent la nature pour des milliers d'années. En gros, ce que fait le patriarcat et dans toutes ses versions et ses déclinaisons, c'est qu'il nie le fait que d'abord, on est tous reliés et qu'on est tous concernés par les mêmes choses. Parce que, et il nie aussi la sacralité de toute vie. Parce que je dis qu'on est tous reliés parce que c'est... Je ne vais pas mettre de jugement là-dedans. C'est assez simple de croire que les invasions et les attaques actuelles ne nous touchent pas. Pour moi, c'est une aberration. Parce que jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, j'ai le même air que celui du Liban.
C'est clair.
J'ai la même eau que celui du Liban. La même eau passe du Liban jusqu'ici. Et je parle que du Liban parce que j'ai... Enfin bon, bref. Et donc, les produits toxiques des bombes, eh ben...
Bien sûr.
elles traversent l'air.
Ouais,
elles viennent à travers l'air et à travers l'eau polluée. Et donc, on est vraiment touchés, nous aussi, d'abord par l'écocide qui vient nous toucher, nous aussi. Et puis après, on voit bien tous les prix flambent et tout
C'est ce que j'allais dire. Même si ceux qui ne veulent pas entendre le côté écologique de la chose peuvent s'en rendre. Ouais, voilà, le côté humain, le côté écologique de la chose peuvent s'en rendre compte tout simplement sur le côté portefeuille également. C'est-à-dire que quand tu vas mettre le plein actuellement, tu repars de la station essence et tu boites. Enfin, je veux dire, tellement ça t'a fait mal de mettre le plein actuellement. Donc, même si tous les aspects humains, écologiques ne veulent pas être pris en compte, même juste via l'aspect financier de tout ce qui se passe actuellement, on le ressent. On peut pas dire que ce qui se passe à l'autre bout du monde ne nous concerne pas.
Donc, on a vu à travers le bilan que j'ai fait, la présentation que j'ai fait, que en fait la violence et donc toutes les possibilités de guerre, parce qu'en fait quand on parle de prendre soin de la paix, c'est parce que à la base il faut sortir de la violence et sortir de la guerre. Donc on voit que à tous les niveaux on peut être confronté à cette violence, dans l'éducation qu'on donne aux enfants, à l'école, au niveau de la nation, au niveau international, à tous les étages il va falloir travailler sur soi pour sortir de la violence, dans toutes les inégalités, dans tous les crimes impunis, toutes les fois où on se retrouve dans un jeu de pouvoir vis-à-vis de quelqu'un, qu'on joue à qui a raison dans une discussion, ou qu'on cherche à avoir un pouvoir sur l'autre, on est dans ce rapport de domination et de violence. Donc c'est vraiment un grand chemin pour en sortir, et ça on en parlera après, mais d'abord la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est mais en fait la violence, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Pauline, éclaire-nous là-dessus.
Quel lancement !
Eh ouais, mais alors réponse, non. La violence n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et alors partout dans le monde, il y a des peuples, les peuples premiers, les aborigènes d'Australie, les Inuits de l'Arctique ou alors les Papous de Nouvelle-Guinée, les peuples autochtones, les peuples premiers, prouvent que depuis des millénaires, il est possible de vivre en harmonie, sans domination, sans guerre et sans destruction. Alors moi, je me suis attachée à regarder un peu, à aller étudier rapidement leur sagesse pour être inspirée, quoi, en fait. Et en fait, la paix ne se décrète pas, elle se cultive par le dialogue, le partage, le lien sacré à la Terre. Et c'est ce dont ils utilisent, eux, pour évoluer. Donc je vous propose de regarder un peu en détail ces différentes cultures, enfin civilisations, les aborigènes d'Australie. Donc c'est un peuple qu'on dit de paix et de sagesse. Donc t'imagines une société où les conflits se règlent par la parole, où la terre se transmet sans guerre, où le respect de l'autre prime sur la possession. Donc les aborigènes d'Australie, ouais moi aussi j'ai mon cœur qui palpite, avec plus de 65 000 ans d'histoire, donc ils sont vieux hein, par rapport à nous, nous offrent une leçon unique, celle d'un peuple qui a su vivre en paix avec lui-même et avec la nature. Donc leur sagesse, elle est fondée sur le dialogue, la justice réparatrice et le partage. Et elle est plus que jamais une source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Donc en fait... pour donner quelques grandes lignes, donc la culture de la paix et de la non-violence, comment elle se traduit chez eux. Donc ils ont jamais eu besoin de développer d'armes de guerre ni de structures militaires en fait. Leurs organisations sociales reposent sur la résolution pacifique des conflits. Donc les désaccords se règlent dans des cercles de parole qu'ils appellent les corroborés, où chaque membre de la communauté peut s'exprimer jusqu'à ce qu'un consensus émerge. Donc il y a un feu au milieu, enfin il y a vraiment un truc de tradition de s'écouter et de construire ensemble une proposition commune. Donc aujourd'hui quand même, on se rend compte que c'est des programmes de médiation en Australie et à l'étranger qui ont été influencés ou en tout cas qui se sont inspirés de ces pratiques. Il y a chez eux une absence de conquête territoriale. Donc avant la colonisation des Anglais, là, il y avait 500 nations arborigènes qui coexistaient sans guerre de territoire. Leurs frontières étaient définies par des accords encore en cercle, mutuel.
Chacun chez eux, chacun son territoire, chacun son truc, et puis voilà.
Et puis fois, il y a un mariage qui fait que ça s'allie, mais il n'y a jamais eu de combat armé, en fait, pour s'accaparer la terre de l'autre. Et en fait, le troisième point, c'est la justice réparatrice. Donc quand il y a eu un tort, la priorité de la communauté arborigène, c'est de rétablir l'équilibre social par des excuses, des compensations ou des rituels. Et il n'y a jamais eu de punition ou de menace, fait. Et ce modèle, ça influence désormais des systèmes judiciaires modernes, les tribunaux communautaires en Australie, ou aussi la justice réparatrice qui commence à faire ses balbutiements en Europe. Donc voilà, les aborigènes, la paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'art de le transformer en harmonie.
Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, pardon, je te coupe, Pauline, c'est que, et que plein de. Quelque chose qui s'est énormément perdu, c'est le dialogue, mais dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que maintenant, même dans beaucoup de discussions, c'est pas des dialogues, c'est chacun fait son monologue en essayant de convaincre l'autre de ce qu'il raconte. Et il n'y a plus tellement cette écoute, on perd beaucoup cette écoute, en fait, dans l'échange, dans la discussion. C'est pas un dialogue, c'est vraiment chacun va faire un monologue pour essayer de convaincre l'autre ou de lui prouver qu'il a raison. Et du coup, retrouver le vrai sens du terme dialogue permet vraiment d'avancer. Et puis, on l'entend dans ce que tu dis, quoi.
Après, il y a un deuxième fondement social de cette, j'ai envie de dire cette culture, mais enfin, c'est plus que ça. C'est vraiment une société. Bon, voilà, c'est le partage. C'est un fondement social de leur économie qui est opposé donc à l'accumulation, ce qu'on connaît bien chez nous. l'obligation de redistribuer tout ce qui est reçu, nourriture, objets, savoir, doit être partagé. C'est la règle de l'économie de don. Et ça crée des liens indéfectibles entre les individus, les clans. C'est du partage. Donc, ça a inspiré chez nous aujourd'hui, si tu veux, le principe des AMAP, où on partage la récolte, le travail de l'agriculteur avec le consommateur, le mangeur de légumes. Ou alors les monnaies locales, ou alors encore le sel, société d'échange de services, d'objets. Voilà.
Oui, c'est ça. Moi, je sais faire ci, je sais faire ça. Viens, voilà. Toi, on échange. C'est du troc de savoir, du troc d'expérience, du troc de tout. En fait, du troc.
Ouais. Ça n'a pas de valeur.
C'est ça. Pécuniaire, ouais, pécuniaire. C'est ça.
Ça a une valeur, c'est une grande valeur, mais
pas pécuniaire.
Mais pas pécuniaire.
Qui n'a pas été marchandisé, quoi. Et. Et un deuxième point, c'est l'accueil inconditionnel, l'ouverture sur l'autre. Les voyageurs sont nourris et logés sans contrepartie. On ne demande pas une pension, quoi. Ouais. Et cette tradition se perpétue depuis toujours, depuis des millénaires. Et enfin, il y a un troisième point, c'est l'éducation par l'exemple. Donc là, dès très jeunes, les enfants sont tout de suite amenés à écouter, à contribuer au bien commun. Enfin, il y a un truc d'éducation dans le collectif. Tu fais partie, tu ne possèdes pas. On circule, on échange, on transmet. Mais c'est la philosophie de remettre en cause l'obsession de la propriété individuelle.
Ça. Oui, et puis on est quand même la seule espèce qui payons pour vivre sur Terre, qui payons pour manger, qui payons. Enfin voilà, il y a quand même un lien aussi à tout ça, quoi.
Et le troisième point qui nourrit, qui est une base de des aborigènes d'Australie, c'est le lien à la terre comme source sacrée de la paix intérieure. Oui.
C'est quelque chose qui parle beaucoup à Tissi. Ça s'ouvre, ça pétille.
Leur relation au country, la terre ancestrale, la traduction, est sacrée et apaisante. En fait, ils ont un truc qui s'appelle le Dream Time. C'est la cosmogonie plutôt, qui enseigne que chaque être, chaque lieu, chaque entité fait partie d'un tout. C'est une vision holistique des tensions qui réduit énormément les tensions, parce que là, on est. Enfin, de savoir que tu fais partie de ce tout, forcément, tu as envie d'en prendre soin et de ne pas l'abîmer, puisque ça fait partie de toi. Donc, ça réduit les tensions et ça favorise le respect mutuel. Et enfin, il y a un deuxième point aussi dans le lien à la terre et à la connexion, c'est leur rituel permanent de chant, danse, peinture, qui raconte l'histoire des ancêtres. Donc on n'oublie pas, il y a un devoir de mémoire et qui rappelle à chacun sa place dans l'univers en limitant un peu les égos, les rivalités. Il n'y a pas de compétition. Donc honorer la terre, c'est honorer la paix pour eux, pour nous, pour moi.
Moi aussi.
J'adhère complètement. les aborigènes nous montrent que la violence naît souvent de la déconnexion, en fait, la déconnexion avec l'autre et avec la nature. Et voilà, donc ça c'est pour les aborigènes d'Australie qui montrent comment prospérer dans une société sans violence et sans hiérarchie et sans détruire son environnement. Il suffit d'être à l'écoute et en lien.
Ouais.
Une deuxième, j'ai un peu de temps encore ou pas?
Ouais. Tout ton temps.
J'ai une deuxième peuple premier, les Inuits. Qui dans une sagesse polaire, en fait, dans des conditions extrêmes, ont su quand même garder un monde en paix. Donc là, ils sont forcément, ils n'ont jamais connu de guerre territoriale ou de conflit armé.
C'est ce que j'allais dire, j'allais plaisanter là-dessus, j'allais dire peut-être qu'ils ont peut-être moins envie d'aller se taper pour piquer le bout de glace de celui d'à côté.
C'est moins vrai aujourd'hui, grâce au réchauffement climatique, on a pu faire fondre la calotte glaciaire et au Groenland, M. Trump a voulu... On pourrait faire le lien avec l'actualité, mais le Groenland a su se protéger.
Ils ont rien lâché.
Mais je pense qu'ils ont... Ils ont pu exprimer avec cette méthode, inspirée des Inuits, de la coopération et la paix, c'est un socle aussi de l'organisation sociale des Inuits. Donc il y a absence de hiérarchie sociale, violente en tout cas. Les décisions se prennent au consensus, encore une fois, il y a un truc de partage de la parole et de la décision lors d'assemblées où chacun peut s'exprimer. Donc les aînés qui jouent un peu le rôle de médiateur, mais ils ne sont pas dans le truc descendant, coercitif.
Coercitif.
Donc il n'y a pas de pouvoir de domination de l'ancien sur le jeune, mais il y a, peut-être là, il y a l'expérience est reconnue. Et voilà. Mais en tout cas, il y a un partage obligatoire. Ça, ça fait partie du fondement aussi de la coopération. Par exemple, la nourriture, la chasse des phoques et des baleines, c'est une activité collective. Et en fait, tout le monde repart avec la même quantité de ressources. Et ça élimine un peu les inégalités les tensions qui pourraient être liées à ça. Et aussi, eux aussi ont une résolution pacifique des conflits. Donc là, c'est pareil, ça va nous faire briller. Oui, nous, vu ça, nous aussi. Les disputes se règlent par des chants et du jeu. Et pas de violence. Jamais de violence. Donc il y a un truc, il y a les débats aussi, les discussions, mais la divergence est bienvenue. Enfin, il y a un truc de discussion. Authentique et empathique. Et donc c'est un peu des traditions qui inspirent aujourd'hui les écoles communautaires et les écoles nordiques aussi. Il y a un peu ça chez les Danois, les Norvégiens qui s'inspirent de cette philosophie de vie. Donc on peut vivre en société, bien vivre, sans domination ni exclusion. Et ils ont aussi, eux, un rapport très ancré et apaisé avec la nature. En même temps, ils vivent dans un environnement assez hostile. Et donc, en fait, toute la nourriture qu'ils trouvent, ils les considèrent comme des partenaires, pas des ressources qu'il faut prélever. Et j'ai vu ça aussi. Ils demandent pardon à l'animal avant de le tuer. Et ils le remercient de lui fournir cette alimentation nécessaire pour sa survie. Et donc il y a vraiment leur façon de faire a influencé sur les mouvements de chasse éthique, si on peut encore considérer que la chasse soit éthique, mais une alimentation durable, en tout cas de ne pas priver plus que ton besoin. Il y a quelque chose comme ça, la gestion des ressources, les techniques de pêche, de chasse sont transmises des générations et ils aient toujours, tout le temps en tête d'éviter le gaspillage et de respecter l'écosystème. Donc il y a il y a cette philosophie-là ancrée depuis des millénaires. Et ils ont aussi dans l'art, la culture, c'est un peu pareil chez les aborigènes, ils développent beaucoup de peinture et les thématiques de la paix sont les principales sources d'inspiration des artistes. Voilà, donc ça c'est pour les Inuits d'Arctique. Donc ils continuent à transmettre leur savoir. Il y a des programmes... bilingues, donc qui permettent de conserver ces valeurs traditionnelles. Et donc il y a des mouvements un peu au Canada sur transmettre ce savoir.
Ok. Très bien, très bien.
J'avais les Papous. Est-ce que je peux parler des Papous de Nouvelle-Guinée ?
Alors, c'est ce que tu me dis à peu près. Est-ce qu'on ne se fait pas la petite pause musicale ? Tu les fais après,
si tu veux.
Ça, on voit en fonction du timing qui nous reste ou quoi. On discute, on fignole tout ça pendant le morceau. Et puis, qu'est-ce qu'on écoute en premier morceau, Pauline ?
C'est Lève-toi.
Oui. Barbara Pravi. Des fois, je mets des trucs comme ça et on a un peu tendance à oublier Barbara. C'est ça, Barbara Pravi, Lève-toi.
Et Emel.
Matlouti, c'est parti.
Lève-toi, foule. Ne regarde pas le monde qui s'écroule. Sans rien faire en pensant qu'à ta gueule. Sans bouger, sans t'armer de conscience. Ne laisse pas s'installer la violence. Le rejet de l'autre et l'ignorance. que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent. Lève-toi foule, montre que dans ton sang ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles, les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi fils, si ici nous ne sommes que poussière, toi et moi on est enfants d'une seule terre. Fais honneur à tes mères, à tes filles, fais honneur à tes sœurs, à leur vie, elles qui ont pour tous payé le prix trop cher du silence.
C'était Barbara Pravi, Lève-toi, en compagnie d'Emel Matoutli. Vous êtes toujours dans Cheminons dans la transition, notre émission mensuelle en compagnie de Ligette, Lise Jourdain en transition, et de nos deux animatrices, Chinsia et Pauline, toujours présentes. On continue, je vous redonne la parole. On avait parlé donc, voilà le sujet du jour, soutenir la paix. On a parlé de civilisation, de peuple premier, de la manière dont il fonctionne, dont il fonctionnait et dont il fonctionne encore actuellement. On continue, je vous redonne la parole.
Oui, alors c'était pour souligner que on a un exemple qui est vieux de 65 000 ans d'années. Okay. Donc on peut changer, on peut avoir une position forte et courageuse contre la guerre. C'est ce qu'a fait l'Espagne en fait dernièrement.
Actuellement,
et
là,
en
ouais.
fait même depuis longtemps, parce qu'en fait c'est un des premiers à avoir reconnu l'État de Palestine, c'est un des premiers à avoir dénoncé, qualifié de génocide l'attaque, enfin les attaques d'Israël sur la bande de Gaza, et donc c'est le seul de l'Europe à dire non, je ne veux pas que les chasseurs militaires américains viennent se poser sur mon territoire. Ouais. Viennent se ravitailler sur mon territoire. Ils ont aussi, c'était à l'époque, ils avaient interdit le transit des armes de guerre pour Gaza via leur plateforme militaire. Donc en fait, la position de Pedro Sánchez, là, le président du gouvernement, c'est donc une position ferme. Et étonnamment, pas beaucoup de personnes l'ont suivi, mais en tout cas, il a dit que en fait, c'est une histoire de ne pas répéter les erreurs du passé, puisqu'il se rappelle que il avait dit oui pour la guerre en Irak, et il a envoyé 1000 soldats pour la guerre en Irak, et au final, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a une démocratie installée ? Enfin, c'était ça la raison. Et aujourd'hui, il y a encore le chaos. Donc, il dit non, mais on va pas arrêter. On va arrêter de répéter les erreurs du passé. Et c'est quelqu'un de foncièrement de gauche. Il se fait attaquer par l'extrême droite. En permanence, forcément. Mais donc c'est une position, en fait, il se range du côté du droit international. Dès l'attaque au Venezuela, il l'a dit. Au Groenland, c'est illégal. En Ukraine, c'est illégal. En Gaza, c'est illégal. Donc il refuse de participer à quelque chose d'illégal. Et c'est plutôt cohérent pour un président, enfin en tout cas, respecter le droit international, c'est la base. Ouais. Bon, bref, ça c'est autre chose. Et ensuite, il le fait aussi parce qu'en fait, comme il est attaqué et puis qu'il voit que l'Europe, au niveau de la dédiabolisation des pensées d'extrême droite et enfin de ce côté confrontation violente envers l'autre, l'étranger, le différent. Lui, il a besoin d'avoir un socle soutenu. Enfin, en tout cas, il a envie que la gauche en Espagne perdure. Ouais. Il y a 70% des Espagnols qui sont contre la guerre au Moyen-Orient. Ouais. Et du coup, lui, il dit « Ouais, non, je suis d'accord avec mon peuple. je transmets la voix et je prends ce que mon peuple dit en majorité pour faire quelque chose au niveau international. » Alors qu'en France, de l'autre côté, on a des pubs...
Ouais. C'est autre chose, quoi.
Qui vendent des porte-avions et des avions de guerre.
Tout à fait. Voilà. Ouais, un des rares gouvernements de gauche européens en Espagne, et on le voit, enfin même hors la politique et tout, même ce qui se passe dans leur pays, ils sont en plus au niveau des rentabilités, au niveau des salaires, ils ont bloqué le prix de l'essence actuellement. Enfin, voilà, et on voit que tout le monde dit « Ah, le gouvernement espagnol est génial, mais le gouvernement espagnol est un gouvernement de gauche. » Voilà, tout simplement.
Et ça fonctionne,
c'est possible. Et ça marche, c'est incroyable. Bref, parenthèse fermée. Continuons.
Donc là, ouais. On voit bien avec l'histoire de l'Espagne et aussi des peuples autochtones qu'il est question de prendre la responsabilité de la paix, de faire vraiment le choix de cette paix et de prendre la responsabilité qui va avec. Et quand on prend sa responsabilité par rapport à sa vie ou par rapport à des choix, c'est retrouver sa souveraineté. La souveraineté, c'est la liberté de décider par soi-même de ce qui est bon pour soi et de ce que je veux nourrir à l'intérieur de moi et avec les autres. Donc, on est vraiment dans un travail intérieur profond pour restaurer notre esprit critique et notre lien à notre corps. Parce que depuis l'école, depuis le plus jeune âge, on m'a demandé, en tout cas moi personnellement, maintenant l'école, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, quand j'étais à l'école, on m'a demandé d'obéir sans réfléchir, d'admettre des savoirs sans les remettre en cause, et puis de nier le rythme de mon corps pour m'adapter à un rythme imposé par l'éducation nationale. Okay. Je devais avoir faim quand ils avaient décidé qu'ils avaient faim, que je devais avoir faim, je devais aller faire mes besoins quand ils avaient décidé que c'était le moment pour ça. Enfin voilà. Donc vraiment, c'est donc retrouver sa souveraineté, c'est vraiment un travail profond à l'intérieur de soi pour se réapproprier notre pouvoir de penser et de sentir par soi-même. En gros, c'est retrouver notre plein potentiel. Et pour aller dans ce chemin-là, je vous propose 3 verbes. Le premier, c'est regarder. Donc, c'est regarder objectivement ce qui se passe. Alors, pour argumenter mes 3 verbes, j'ai pris un exemple, la loi du plomb. Donc, j'aurais pu en prendre un autre. J'aurais pu en prendre un autre.
On a le choix.
Mais bizarrement, celui-là, il m'a inspirée. Alors, ce que j'observe, c'est que plus de 2 millions de personnes ont signé la pétition contre la loi. J'observe aussi que l'État a passé cette loi. J'observe aussi que la loi du plomb autorise des produits toxiques et que Monsieur Duplomb est membre d'un syndicat qui est fort partisan des produits chimiques et des grosses productions industrielles. Là, c'est de l'observation. Ouais. Il n'y a pas d'idée de bien, de mal. C'est juste, c'est les faits.
Ouais, c'est un constat.
C'est un constat. Le deuxième verbe, c'est juger. Mais moi, je vais plutôt aller dans questionner. C'est dans ce sens-là, juger. C'est vraiment questionner. On va questionner l'intégrité de la société et des institutions. Parce que face à ces constats, y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Par exemple, si le peuple n'est pas écouté, est-ce que je peux dire que les représentants me représentent et qu'ils sont légitimes à me représenter ? Si Monsieur Duplomb est membre d'un certain syndicat et qu'il crée une loi autorisant des produits toxiques, sachant que ce syndicat favorise les produits toxiques, quelle est la place de ce syndicat dans cette loi ? Et est-ce que Monsieur Duplomb a reçu de l'argent pour ce syndicat pour faire passer cette loi ? Je n'ai pas de réponse.
Tant de bonnes questions, en tout cas.
Je n'ai pas de réponse, je pose juste des questions. Mais c'est juste un exemple pour montrer que, en fait, face à des observations, il y a des questions qui viennent.
Bien sûr.
Et la deuxième façon de questionner, ça va être mon intégrité personnelle. Là, on avait vu au niveau des institutions et de la société. Et moi, mon intégrité personnelle. Mais que me disent mes valeurs là-dessus ? Est-ce que je suis d'accord de voir l'écocide grandir grâce à des produits dont je connais parfaitement la toxicité ? Et est-ce que je suis d'accord d'empoisonner mes enfants, mon mari, ma famille, avec des produits toxiques qui sont reconnus comme toxiques ?
Quelle bonne question.
Et là, du coup, on arrive à la au troisième verbe qui est agir. Parce que si je ne suis pas, si je réponds non à toutes les questions qui concernent l'intégrité personnelle, alors je vais devoir créer une alternative. Et du coup, bah, qu'est-ce que je mets en place pour vivre ce qui me tient à cœur, ce qui anime vraiment mon être? Et dans cette action en intégrité, parce qu'en en fait, quand on parle de retrouver la souveraineté, c'est ça, c'est retrouver l'intégrité de qui on est. Et je peux vous le dire, une action en intégrité, ça génère de la joie, du sens et un alignement qui est vraiment très, très bon à vivre. Je vous conseille. Mmh. Et donc, ça, c'était vraiment un processus pour qui est à suivre et qui est à étudier dans tous les aspects de notre vie. Comment j'éduque mes enfants, comment je les accompagne, ouais, sur le chemin plutôt qu'éduquer, comment je consomme, comment ci, comment ça. Donc Louis Fouché disait « La transformation est lente, patiente, méthodique et déterminée. » Moi, je rajoute qu'elle est personnelle et que chacune est responsable de la vivre ou pas. Mais si on fait le choix de la vivre, c'est un enchaînement quotidien au service du vivant. C'est faire le chemin en soi pour savoir ce qui nourrit la vraie vie et se mettre au service de cela. En gros, c'est servir le sacré qui vit en nous.
C'est beau. C'est inspirant. C'est inspirant.
Et pour servir le sacré qui est présent en nous, alors on a les actions non violentes. Comment on peut agir ? Bah, c'est répondre avec des actions non violentes. Et répondre avec une action non violente, c'est un peu comme suivre l'appel de notre cœur, quelque chose en nous qui dit « mais je ne peux pas faire autrement en
oui,
fait, je suis obligée d'en être ». Et par exemple, aujourd'hui, agir pour la paix, la justice, le respect fait partie du défi actuel. Et si j'en suis pas, si je loupe, enfin si on, collectivement, on loupe quelque chose par rapport à ce défi, l'humanité n'a tout simplement pas d'avenir.
Ouais. Et le peu d'avenir qu'il a, tout le monde s'en rappellera aussi.
Oui.
J'aime beaucoup garder cette image dans la tête de dire attention, on se rappellera de vous, en fait, vous qui n'avez rien fait, vous qui n'avez pas voulu bouger, vous qui avez laissé faire tout ce genre de choses, on ne vous oubliera pas, on se rappellera de vous éternellement.
Et oui, parce que voilà, si on n'agit pas tous ensemble pour le respect, la justice et l'amour, alors on va à la destruction. On le voit bien, il y a des guerres partout, il y a la haine. Et donc, ces actions non violentes, elles vont prendre plusieurs formes. Elles peuvent se faire tout seules ou avec des organisations. Elles peuvent être visibles ou dans le quotidien, noyées dans la masse. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est qu'elles prennent plein de possibilités. Ça va toucher plein de domaines. Si tu aimes chanter et que tu aimes dessiner, tu vas utiliser ton art pour promouvoir la paix ou dénoncer une situation. Et si tu es un scientifique, tu vas pouvoir aller mesurer le taux de phosphore blanc dans le sol des Libanais et tu vas pouvoir peut-être trouver une solution pour qu'après ils puissent planter quelque chose dessus. Si tu es dans l'humanitaire, tu vas pouvoir agir pour soutenir les associations et agir avec eux pour ça. Dans ta consommation personnelle, tu peux faire des choix aussi. Au niveau de la sociologie, tu peux aussi recueillir des témoignages qui expliquent ce qui se passe là-bas. Et d'un point de vue historique, ça veut dire désinguer le roman national pour remettre une autre réalité, qui est plus proche de ce qui s'est vraiment passé. Mais désinguer le roman national. Donc vraiment, les actions non violentes, elles vont prendre énormément de formes différentes. Et du coup, eh ben, on peut tous agir. Mmh. On peut tous agir. C'est assez simple, on peut tous agir. Donc, quand on agit seul, eh ben, c'est déjà avant tout par le choix de ce que je consomme. Si je veux soutenir la vie, alors je peux avoir une consommation qui soutient la vie. Et puis, je peux simplement boycotter ce qui génère la guerre. Alors, pour savoir ce qui génère la guerre, il y a plein d'entreprises et de produits français et autres qui soutiennent la guerre et le génocide. Donc, pour ça, je vous conseille le site BDS qui répertorie toutes les entreprises qui font la guerre, enfin, qui soutiennent la guerre. Et puis, il y a l'application No Thanks. Alors, j'aime beaucoup cette application parce que, même si... Enfin, bref... J'aime beaucoup cette application parce que d'un côté, elle répertorie les entreprises et les produits qui soutiennent la guerre, mais elle a une autre page où elle présente des alternatives. Donc du coup, on peut directement aller sur la page des pages des alternatives et choisir ces produits-là. Ensuite, on peut agir aussi dans les valeurs que je porte au quotidien, c'est-à-dire comment j'accompagne mes enfants, comment je me positionne dans la relation à l'autre. Et donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Et il y a aussi le don. Alors, si ça vous intéresse, je mettrai dans les liens de référence de l'émission des adresses où on peut donner des dons. Tout simplement, il y a 2 ans, je me suis formée à la permaculture et j'avais rencontré 7 Libanais, Libanaises. Et là, récemment, j'ai reçu un mail de leur part parce qu'ils ont besoin de soutien, tout simplement parce qu'en une semaine, il y a eu 700 000 personnes qui ont été déplacées. Donc, ils ont besoin de matelas, de nourriture, de quoi faire de la cuisine, de couvertures. Enfin, ils ont besoin de plein de choses. Voilà. Et... Donc ça, c'est pour agir seul. Après, on peut agir en organisation. Donc, j'ai 2 exemples en tête. Il y a Gênes, les dockers, qui ont fait une grève générale pour empêcher l'envoi des armes en Israël. Ouais. Et puis, à Pise, le 12 mars 2026... Il y a eu 100 personnes qui ont bloqué un train. Le train, il était chargé d'armement et il a été obligé de faire demi-tour. Voilà. Alors, il y a ces actions précises, mais bien sûr, il y a le mouvement de la paix en France. Il y a Amitié Palestine Solidarité, il y a Association France Palestine Solidarité, il y a les Marches pour la Paix, il y a la Freedom Flotilla Coalition, la Freedom, en français, c'est la flotille de la liberté. Donc, c'est une asso qui est née en 2010, et que c'est un mouvement international qui a vraiment pour but de faire de l'aide humanitaire et de respecter le droit international.
Et de péter le blocus souvent à Gaza en passant par la mer.
Oui.
Et souvent ils se font arrêter, encore une fois, dans les règles de l'art, dans les eaux internationales où le gouvernement israélien n'a normalement aucun droit d'aller les arrêter à ces endroits-là.
Alors quand ils se font arrêter, ils ont de la chance. Israël a déjà
Il en a tué, ils ont déjà fait sauter les bateaux.
Ouais, ils ont déjà assassiné des personnes. Donc tout ça, c'est comment agir seul ou en orga. Et puis, dans la lumière, donc quand je parlais de la lumière, c'est par exemple toutes les positions que l'on peut voir des artistes. Donc, alors moi, j'ai un souvenir qui me plaît toujours, c'est Celentano. On est au début de la guerre en Irak. L'Europe se demande si elle doit y aller. Celentano fait une chanson pour la paix. Donc, à l'époque, c'est quelque chose de télécharger la musique. Hein, on n'est pas sur 2 minutes sur YouTube. Ouais, Et le lendemain, dans les manifestations en Italie, tout le monde chantait la chanson de Celentano, Il passi che facciamo, c'était vraiment gênant. Et donc, il y a des prises de position des artistes, beaucoup plus, au César, à la fête de la musique. Il y avait vraiment des personnes qui ont dit stop au génocide, Free Palestine, ou des choses comme ça. À Sanremo, au festival de la musique. Italienne. Donc là, il y a eu carrément un chant qui parlait d'une petite Gazaoui qui est décédée. Et puis, il y a eu plusieurs mouvements anti-guerre, en fait. Il y en a un, il y a une chanson où le gars a lu Le Déserteur, le texte en italien du Déserteur. alors que l'autre chantait quelque chose de gay à côté. Enfin bon. Et puis, bien sûr, il y a 2 ans, Gali, avec Stop al Genocidio, qui est Stop au génocide, et sa chanson Casa Tua, qui dénonçait aussi la guerre. Donc on voit vraiment qu'il y a une action des gens du spectacle pour dénoncer les choses. Mais là, nous, on ne peut pas agir. Là où on peut agir, c'est que localement, il y a des associations pour valoriser la culture. Mmh. Et là, on peut agir. Parce que les génocidaires et les complices de génocide, ils ont la mauvaise habitude de vouloir se réapproprier la culture du pays qu'ils assassinent et de vouloir complètement éradiquer, effacer la culture. Donc, c'est hyper important que nous puissions faire vivre cette culture, rappelée par les poèmes, par les chansons, par la cuisine, par plein de choses, par des films, que cette culture existe. Et à Toulouse, on a début mars le Festival palestinien du cinéma palestinien. Donc c'est des films, des expos, des livres, des ateliers cuisine, des rencontres où vraiment on échange et on partage sur la culture et on peut les soutenir.
Il y a des concerts souvent aussi, j'ai des amis qui jouent régulièrement au festival du cinéma pour la Palestine. Ouais, c'est un très bel événement.
Et j'ai envie de parler aussi de PEPA. Alors PEPA c'est le nom pour les intimes, hein. Sinon c'est Permaculture Palestine. Et c'est un mouvement qui est né en juillet dernier et qui regroupe des permaculteurs permacultrices pour agir à travers la permaculture pour la Palestine. Et ce que j'aime vraiment, vraiment dans ce mouvement dont je fais partie, hein, c'est que on a été chercher les témoignages des Palestiniens, Palestiniennes sur leur vie et comment eux, là-bas, ils agissaient donc dans la non-violence pour nourrir des familles, pour protéger la nature, pour... Enfin voilà, et donc on a leur expérience et on part de là pour agir. Et c'est, pour moi, c'est vraiment un très très bel exemple parce que moi je peux être découragée par ce qui se passe et dès que je les écoute dans leurs témoignages, mais ils sont tellement inspirants, tellement remplis de vie, tellement remplis de force, tellement de résilience qu'ils sont vraiment 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 impressionnants. Voilà, j'ai terminé moi.
Très bien, ça marche, on se fait la deuxième pause musicale de cette émission. Qu'est-ce que l'on écoute, vous souvenez-vous? Que pas que je vous mette en galère, sinon je le dis, hein, j'annonce.
Vivante
que...
ouais,
de Cindy Pincha.
Voilà.
On écoute ça, c'est parti.
J'ai connu la chute, j'ai connu la honte, les nuits sans nom et les cœurs en prison. J'ai traversé la peur, les silences imposés, les promesses brisées et les cris étouffés. Je suis vivante malgré tout, je suis vivante malgré les coups, je suis vivante malgré eux, je suis vivante et je le chante. Mon corps était en cage, mes blessures cachées, ma chair meurtrie et ma voix cadenassée. J'ai fermé les poings, j'ai serré les dents, j'ai cherché en moi le souffle du vivant. Je suis vivante malgré tout, je suis vivante malgré les coups, je suis vivante malgré eux, je suis vivante et je le chante. J'ai porté leur poids, j'ai porté leurs attentes, leurs peurs sur mon dos, les vérités brûlantes. Mon ventre a dit non, mon cœur a dit assez, et au fond de mes os, cette vérité s'est levée. Je suis vivante malgré tout, je suis vivante malgré les coups, je suis vivante malgré eux, je suis vivante.
Vivante, Cindy Pincha, vous êtes toujours dans Cheminons dans la transition, notre émission en collaboration avec Ligette, en compagnie de Cincia et Pauline. On continue, on reprend cette émission pour la toute dernière partie. Il nous reste moins de 10 minutes avant de conclure.
Ouais, Chinsen nous racontait la récit, le roman national, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça. En ce moment, il y a aussi sur la... ce qui se passe au Moyen-Orient, là, actuellement, c'est un traitement de l'information qui devient une arme, finalement. Et moi, j'avais envie de vous présenter le collectif, enfin, en tout cas, l'initiative d'une soixantaine de journalistes indépendants qui a publié une tribune, là, récemment, au mois de mars, qui dénonce le traitement médiatique défaillant, lacunaire, déséquilibré, complaisant envers les récits officiels américains et israéliens. Donc ça, c'est leurs mots, hein. Mm-hmm. Et concernant la guerre au Moyen-Orient. Donc c'est Acrimed aussi qui est une association Action Critique Média qui est constituée donc en association qui réunit des journalistes et des médias pour mettre l'accent sur des défailles du média. Et je me suis basée aussi sur le média indépendant Blast. Hein,
Blast, c'est un peu, sûr, voilà.
Donc la raison d'être de ce média, c'est d'avoir un esprit critique de ce qui se passe, bon, et aiguiser l'esprit et donner à résister et à agir par le savoir, par la connaissance. Donc en fait, il y a des phrases. Nous indignons de voir certaines informations émanant des autorités américaines et israéliennes reprises sans distance critique. Donc ça, c'est dans le collectif, dans la tribune. C'est cet alignement du récit officiel et l'asymétrie des voix. En fait, ce qui veut dire, c'est quand au-delà de l'information de l'État, il faut savoir s'aligner à chaque fois sur la version officielle. C'est pas du tout le travail d'un journaliste. Et il pointe du doigt cette asymétrie flagrante sur les plateaux. La représentation israélienne est dominante, tandis que les voix iraniennes, libanaises, palestiniennes sont complètement marginalisées ou voire absentes. T'as les médias français qui reprennent souvent au temps réel les communiqués israéliens, donc il n'y a pas de relativiser, enfin ils relativisent pas, il y a un truc de minimiser les violations du droit international, c'est ok, aucun problème avec ça. Donc voilà, il y a une information déséquilibrée et qui entraîne une émotion, une polarisation des esprits. C'est le bien contre le mal. Je dois faire partie d'un camp. J'ai pas.
C'est blanc ou noir.
C'est blanc ou noir. C'est voilà. Donc il y a un truc de. Donc la guerre, elle correspond. Enfin, le média, la façon dont il traite la guerre entraîne forcément une perception du public. Et appauvrit clairement la compréhension du conflit. Il y a des journalistes signataires qui dénoncent aussi la déshumanisation des victimes palestiniennes, iraniennes et libanaises. Ouais, en fait, quand on parle de certains meurent, d'autres sont tués, voire assassinés. Ouais. Tu vois, c'est les mots, la hiérarchie des mots et la vie qui est en lien. Ça, c'est vraiment un outil de propagande médiatique et il faut veiller à ça, il faut réfléchir à ça. Quand on écoute un échange, une intervention dans les médias, il faut se poser la question du choix des mots. Donc le champ lexical, il n'est pas neutre et il implique forcément, il hiérarchise des vies, il oriente une lecture. Enfin voilà, c'est très très... On est manipulé par les médias. Avec ces biais linguistiques. On a aussi, donc c'est le dernier point, c'est l'accès au terrain. Tu disais d'aller prendre l'information sur place. Ben ouais, mais alors comment tu fais quand c'est censuré, quand c'est interdit et quand il y a un blackout et un danger pour les reporters, hein, quand informer, l'accès au terrain est restreint voire interdit. C'est depuis 2023, hein, Israël bloque l'entrée des journalistes internationaux à Gaza. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas d'office, enfin de personnes.
Les seules infos sont les leurs. Hein.
Voilà, et les reporters palestiniens, eux, ben ils sont ciblés. Il y en a eu 200 tués en moins de 2 mois. En Iran, les autorités coupent Internet, arrêtent les journalistes, tandis qu'au Liban, bah, c'est les frappes israéliennes qui rendent le travail des médias complètement impossible, dangereux. Donc la dépendance accrue aux sources officielles, elle est palpable. C'est pour ça que les médias, bah, ils ont aucune autre information, donc ils prennent ce qu'on leur donne, et puis voilà. Donc c'est un peu compliqué, il y a beaucoup trop de zones d'ombre dans la couverture des souffrances, quoi. Et les reporters sans frontières, ils le rappellent, le blackout médiatique facilite à la destruction totale de l'enclave et son effacement de la mémoire collective. Mmh. C'est ce que tu disais, tu ne sais pas. Donc voilà, il y a seulement quelques journalistes occidentaux qui ont pu couvrir le conflit en Iran depuis février. Les médias internationaux sont toujours interdits à Gaza. Et voilà, donc comment on peut parler de liberté de presse en temps de guerre? Ça, c'est une question ouverte.
C'est une vraie question ouverte.
Voilà, donc moi, je vous invite, enfin voilà, c'est exiger que les médias nous garantissent un accès équitable à la parole, qu'ils diversifient leurs sources et qu'ils questionnent systématiquement le récit officiel. C'est la base d'un journalisme et c'est ce qu'on leur demande. Donc aller chercher les soutiens indépendants, enfin soutenir ou aller voir les médias indépendants comme Blast, Acrimed, les agences médias palestines. Vous avez tellement de sources sur Internet, donc on peut aller chercher l'info. Il faut arrêter de boire ce qu'on nous donne, en fait, et braver les questions, les pressions politiques, économiques, et puis et avoir une information pluraliste.
En fait.
Moi, c'est vrai que j'ai une tendance à aller vers les médias de gauche, mais des fois, pour me faire une critique, de voir mais comment on peut penser autrement, bah, je vais voir les autres médias. Je zappe très vite parce que ça me fait mal. Mais, et après, vous avez aussi des... J'arrête après ça. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui est une ressource aussi de dénonciation importante et qui peut donner... à lire, à comprendre et à voir les mécanismes des actions juridiques qu'il pourrait y avoir dans le droit humanitaire. Voilà, il y a des actions et l'analyse critique des médias. Bon, ça, c'est un travail que tu fais aussi enfants.
On essaie.
Et donc voilà, partager, il faut aussi discuter, partager ses réflexions. C'est en échangeant avec les autres qu'on se fait une idée, qu'on peut transformer, modifier son avis. Aller vers la vérité, la justice et la paix.
Oh, qu'est-ce que c'est bon. On va passer rapidement à la gazette. Le sujet était tellement important aujourd'hui que forcément on avait plein de choses à dire et donc du coup on n'allait pas dire non, mais vous arrêtez de parler, c'est le sujet était trop important. Donc une gazette de Lisette qui va être devoir faite de manière ultra rapide par nos deux animatrices Cinzia et Pauline, savoir ce qui se passe là pour le mois à venir du côté de Lisette.
Ouais, donc allez sur notre site, vous l'aurez dans le détail, mais
très bien.
Donc la gazette, c'est on a fait un petit focus sur comment s'investir et comment agir pour son quotidien et pour améliorer vivre en lien avec ses valeurs. Il y a un article sur c'est le printemps, donc on a envie de reconstruire, régénérer la nature. Donc il y a plein d'actions qui existent sur le territoire. Vous avez un site jeveuxaider.gouv.fr qui recense toutes les actions à l'honneur de la biodiversité et la campagne Printemps pour la planète. On a un petit article et je vous invite à aller sur notre site parce que on avait lancé un tiers-lieu mobile, une enquête publique là-dessus, et voilà, on a développé, on a étudié, on a regardé le contexte et voilà, donc là on annonce que on va pas aller vers ce tiers-lieu mobile, mais on vous explique pourquoi sur notre site. On a les libellules qui ont toujours leur rencontre le deuxième dimanche du mois et tous les jeudis matins sur le jardin pour
jardiner.
Et là, au printemps, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire éclore. Et après, dans les actions qui sont à côté de chez nous, enfin nos amis, c'est il y a le printemps des poètes, les 50 poèmes pour le climat.
Là, samedi 4 après-midi.
Voilà, c'est demain. on a une petite annonce. Là, la coopérative des habitants à l'Alterhabitat, je l'ai mis dedans, mais on a un logement qui est à disposition à partir du mois de juillet. Donc là, c'est habiter autrement. Allez vous renseigner, voir comment on peut construire une façon d'habiter autrement. Pareil sur l'habitat écologique. Là, c'est le printemps. On se projette dans des travaux pour cet été. Donc allez voir. La semaine du 3 au 19 avril, il y a plein d'endroits où vous pouvez visiter. C'est en rapport avec Twiza, qui est un organisme, une asso qui fait la promotion du chantier participatif, écologique et biosource. Enfin, voilà. Vous avez aussi à Raymondville le festival, du festival du réseau de l'assainissement écologique. Donc là, si vous avez envie de préserver l'eau vous pouvez aller voir, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous.
Créativité.
Le 7, 8, 9 mai, il y a vraiment un festival à la salle des fêtes de Raymondville sur les toilettes,
tout ce qui touche à l'assainissement,
l'assainissement,
etc. Okay.
Vous avez aussi une petite pub pour notre maraîchère qui propose des plants de fraisier, et Terra Ferma aussi qui propose de vendre des plants pour le jardin, parce que ça, c'est le printemps aussi,
bien sûr.
On a envie de préparer nos potagers.
On fait des semis, on s'y met là.
Ouais. Et voilà, j'ai fini.
Ben, ça marche, super, merci beaucoup. Juste pour terminer cette émission, moi je voulais rapidement envoyer donc, nos pensées bien évidemment au Liban, à la Palestine, à la Syrie, au Venezuela, au Soudan, au Yémen, au Congo et à tous les pays en guerre, le Haut-Karabakh également, l'Ukraine bien sûr, le Sahel, enfin voilà. Il y a les gros conflits, ceux dont on parle beaucoup évidemment et qui sont tous aussi importants les uns que les autres, mais il y a ceux dont on parle beaucoup moins également. Donc une pensée à toutes ces personnes. Merci beaucoup Tchinsia et Pauline, on se retrouve bien évidemment le
message.
Mois prochain ouais. Pour une nouvelle émission et on va terminer cette émission par un message très très personnel que je vais donner. Mais siamo tutti antifascisti. Au mois prochain, ciao.
Yalla.
Mes amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.